Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Connaissez-vous Canel, dernière rousse femelle des Pyrénées de souche pyrénéenne? Canel a été tuée par un chasseur le 1er novembre 2004. Une histoire bien plus qu'anecdotique dans notre belle région. Aujourd'hui, les Pyrénées compteraient une quarantaine d'ours, une présence qui n'est pas sans poser de problèmes. Récemment, un mystérieux groupe armé a même été jusqu'à menacer l'État français de rouvrir la chasse à l'ours. Et il arrive ces derniers temps que les gardes forestiers soient accueillis à coups de fusil. Explication. Alain Rennes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur de l'association Pays de l'Ours Adet. Et pour cette émission ce matin, ours, ami ou ennemi, point d'interrogation. Avant qu'on voit peut-être les différentes polémiques qu'il y a aujourd'hui autour de l'ours, parce que quand on n'habite pas l'Ariège, peut-être quand on est dans le nord du Lot ou de l'Aveyron, on n'a pas forcément entendu parler de toutes ces difficultés, mais aujourd'hui ça prend des proportions vraiment importantes. On écoutera par exemple un extrait de cette espèce de message vidéo menaçant à l'égard des autorités françaises et parlant de rouvrir la chasse à l'ours avec des hommes cagoulés, faisant penser au FLNC Corse. Mais dans cette première partie, partons tout simplement à la découverte de l'ours. Alors vous venez de vos vallées, la vallée de l'Arbas, vous m'avez même dit que c'était la vallée la plus proche, vallée de montagne la plus proche de Toulouse. 1h30, c'est ça?
C'est bien ça, oui. Si vous voulez venir le plus rapidement possible en montagne depuis Toulouse, il faut venir en vallée de l'Arbas.
Voilà, vous n'êtes pas vous-même un ours, mais donc vous êtes directeur de cette association. Peut-être en quelques mots, vous pouvez la présenter, l'association Pays de l'Ours Adet.
Oui, bien sûr. Donc c'est une association qui a été constituée en 1991 et dont l'objet est double. C'est à la fois de travailler à la restauration de la population d'ours dans les Pyrénées, mais aussi de travailler à la valorisation de la présence de cette espèce au niveau culturel et au niveau économique. La spécificité de l'association est sans doute d'avoir été créée par des élus locaux. Il y avait quatre communes qui étaient à l'origine de l'association, elles sont 11 depuis, mais aussi de comprendre depuis d'autres collèges d'adhérents qui sont des particuliers, des professionnels ou des associations, donc c'est une structure très ouverte.
Alors, il y a du travail autour de l'ours. D'ailleurs, vous êtes arrivé avec une tenue presque de trappeur et vous avez sur le bras un logo qu'on peut trouver sur un certain nombre de voitures quand on se promène dans les Pyrénées, particulièrement en Ariège. Est-ce que vous pouvez rapidement décrire le logo de... C'est le logo de l'association, on imagine ?
C'est le logo de l'association. C'est aussi le logo qu'on utilise un petit peu pour nos actions et un petit peu pour labelliser, je dirais, le territoire, cet autocollant qui est d'une forme plutôt ronde avec... un ours est sur un fond de montagne. Un ours souriant sur fond de montagne et qui dit juste Pyrénées, pays de l'ours. Voilà, il nous semble que la présence de l'ours est à la fois qualifiante et une image forte pour les Pyrénées. Donc c'est un petit peu comme un label de qualité de l'environnement pyrénéen que d'être la dernière montagne de France à abriter encore des ours.
Donc quand on a ça sur sa voiture, ça veut dire qu'on est favorable?
Plutôt.
Voilà.
Effectivement.
Alors, il y a du travail. On va écouter un premier extrait. C'est un clip qui a circulé sur Internet ces derniers temps, qui a fait pas mal de buzz et qui parle justement de Canel, qui parle de Canel en chanson. On va écouter ça. Et puis après, vous allez nous parler de l'ours que vous avez vu. Vous avez déjà vu des ours, rassurez-moi.
J'ai déjà vu des ours dans les Pyrénées et ailleurs.
On écoute tout de suite.
C'était la dernière femelle d'ours pyrénéen. Elle s'appelait Canel. L'animal a été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier, maintenue malgré la présence annoncée du plantigrade dans le secteur. Son ourson Canelito est livré à lui-même en vallée d'Aspe. Il est désormais orphelin.
Elle était reine de nos montagnes, humble matrone. Au fil des âges, son pelage était sa couronne. Elle était gardienne des ruisseaux, attirée par le reflet de la lune sur l'eau. Elle était l'héritage d'un monde si ancien que les loups face à elle aboyaient comme des chiens, contemplant les sommets et les neiges éternelles. C'était le royaume de Canel, dernière ours femelle d'une grande lignée, digne représentante de nos belles Pyrénées. Sur ces 12 contrées où les vaches font paître, l'être humain a chassé ses ancêtres. Des siècles d'écocides, de battues, sous le regard inquiet des chipaètes barbus. Était-ce la suite logique ou le destin peut-être? Bientôt Canel allait disparaître. était reine de nos montagnes. Mais le monde n'avait plus besoin d'elle.
Voilà, donc c'est l'extrait d'un clip qui circulait sur Internet. Je me rends compte que j'ai pas bien fait mon boulot parce que je saurais pas dire de qui il est.
C'est un chanteur ami qui s'appelle Damien Calune.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir sauvé la mise. Donc cela parle de cannelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cannelle, donc dernière ours femelle de source pyrénéenne abattue par un chasseur le 1er novembre 2004, qui a un fils, Canelito, né cette même année. Qu'est-ce que ça veut dire de source pyrénéenne?
Ça veut dire qu'il y a toujours eu des ours dans les Pyrénées et que les derniers individus donc de la souche naturelle présents naturellement dans les Pyrénées étaient dans ce département des Pyrénées-Atlantiques, et notamment donc cette partie qu'on appelle le Béarn, les vallées d'Aspe et d'Ossau en particulier pour ceux qui les connaissent, et que voilà que cannelle était la dernière femelle de cette population naturelle d'ours des Pyrénées, et qu'elle a malheureusement donc été abattue et elle est disparue le 1er novembre 2004.
Alors, des ours ont été réintroduits dans les Pyrénées. J'ai cru comprendre que l'ours donc, était présent dans les Pyrénées, semble-t-il, depuis 250 000 ans.
Au moins, oui.
Au moins. Et aujourd'hui, il y aurait donc à peu près 40 ours. Donc, c'est des ours slovènes, c'est ça?
Alors, ce sont les ours, effectivement, qui ont été capturés en Slovénie, lâchés dans les Pyrénées. Je crois qu'il est important de dire très rapidement que ce sont exactement les mêmes ours que les ours pyrénéens. C'est-à-dire qu'il y a... D'abord, c'est la même espèce, bien entendu, et il n'y a pas de sous-espèce d'ours en Europe. Il y a des lignées, pour le coup. Et donc, il y a une lignée qu'on appelle une lignée ouest, dont les Pyrénées, l'Espagne, et la Slovénie font partie, et une lignée ouest qui est plus donc dans les Balkans, à partir de Roumanie jusqu'en Russie, etc. Donc on a tenu, bien entendu, à privilégier des individus qui étaient de la même lignée, c'est-à-dire que génétiquement, il n'y a pas plus de différence entre des ours de souche pyrénéenne et des ours de souche slovène qu'entre des hommes de souche pyrénéenne et des hommes de souche slovène.
À quoi ça ressemble un ours, vous qui en avez déjà vu? Évidemment, on a en tête des images ou des vidéos, mais quand on le voit, l'ours, par quel sentiment on est traversé et comment vous le décririez peut-être le dernier que vous avez croisé?
Alors, c'est un animal qui est saisissant non pas par sa taille, parce que l'ours pyrénéen n'est pas un gros ours. On a l'habitude de voir dans les reportages beaucoup de films documentaires ou autres qui ont été tournés, par exemple, en Amérique du Nord ou en Russie, où les ours sont deux à trois fois plus gros que les ours européens, les ours pyrénéens. Donc, c'est pas nécessairement par la taille, mais c'est par le volume. C'est-à-dire que c'est un animal, c'est un animal très rond. C'est un animal qui est une barrique, et puis c'est un animal qui a une attitude qui peut être très 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 variable. Ça peut être très nonchalant marcher tranquillement et tout d'un coup faire une accélération qui est assez étonnante, puisque un ours battrait facilement Usain Bolt sur 100 mètres, même du temps de la splendeur d'Usain Bolt, j'entends, maintenant que sa carrière est terminée. C'est-à-dire que un ours peut faire des sprints, certes sur des distances assez courtes, mais à plus de 50 km/h quand un homme n'atteint pas 40. Alors pour un animal qui est aussi corpulent, qui peut apparaître vraiment pataud, la réalité c'est que c'est aussi un animal qui est capable d'une délicatesse et d'une vélocité qui est assez étonnante.
Vous vous souvenez du dernier ours que vous avez vu, j'imagine, non? Ça remonte à quand?
Je me souviens de plusieurs ours que j'ai pu voir. C'est pas forcément le dernier que j'ai pu voir qui était le plus impressionnant. Impressionnant au sens étonnant, je veux dire, hein, pas impressionnant au sens physiquement. La séquence, je veux dire, qui m'a le plus marqué dans ce que j'ai pu voir dans les Pyrénées, c'était un ours en fin d'hiver qui s'amusait. C'est un jeune mâle qui s'amusait dans la neige, et à la sortie de cette tanière, il s'était littéralement fait une piste de bobsleigh, c'est-à-dire que il glissait dans la neige, et comme il glissait selon un parcours qui était toujours le même, ça avait fini par creuser la neige et à faire vraiment une piste de bobsleigh, et c'était assez étonnant. C'est-à-dire que il remontait la pente, il glissait, puis remontait la pente, puis glissait de nouveau, mais il s'attachait à ne jamais le faire deux fois de la même manière. C'est-à-dire qu'une fois il glissait la tête en avant, une fois la tête en arrière, une fois sur le ventre, une fois sur le dos, etc. C'est un animal qui est surtout, bien sûr, les jeunes, c'est un animal qui est extrêmement joueur et qui est extrêmement attachant, effectivement, pour ça. Oui.
Alors, je le disais, à peu près 40 ours. Est-ce qu'on sait exactement combien il y en a? Est-ce que vous pouvez me dire où ils sont situés dans les Pyrénées?
Alors, l'estimation d'une quarantaine, 39 pour être très précis, lors du dernier recensement qui était celui de 2016, on n'a pas encore la synthèse de 2017, on l'aura d'ici deux mois environ, est assez précise. Je veux dire par là qu'avec les techniques d'études que nous avons maintenant, qui sont à la fois les recherches d'indices de présence et leur analyse, notamment par analyse ADN, qui permet vraiment de distinguer les individus, on peut avoir une approche assez précise, effectivement, de la population. On peut bien sûr pas dire à un instant T combien il y en a aujourd'hui, par exemple, vendredi, mais les estimations sont faites sur une année, et sur une année complète d'observation, eh bien, pour l'année 2016, on a identifié 39 individus différents de manière certaine, dont on connaît pour la plupart l'âge, le sexe, et même les liens de parenté, puisque avec l'analyse ADN permet cela.
Et ils sont essentiellement donc, dans les Pyrénées centrales, c'est ça? Et un nombre important en Ariège?
Alors, clairement, ils sont effectivement surtout dans les Pyrénées centrales maintenant, puisque les opérations de réintroduction de lâchers se sont faites uniquement dans cette partie des Pyrénées et jamais encore sur la partie occidentale où vivait Canel, dont on parlait tout à l'heure. Et entre autres en Ariège, effectivement, mais c'est en fait entre l'Ariège et la Haute-Garonne principalement, je dirais pour la France, et puis le Val d'Aran, le Pallars Sobirà, la Catalogne, jusqu'aux limites de l'Andorre pour la partie espagnole, puisque les ours ne connaissent pas les frontières et utilisent les deux versants des Pyrénées.
Est-ce qu'on continue à réintroduire des ours régulièrement ou est-ce que en fait maintenant ils font des petits et on s'arrête là?
Il y a eu à ce jour trois opérations, une qui était la première en 1996 et 97 lors de laquelle on a lâché deux femelles et un mâle pour tester, on va dire, la bonne adaptation de l'espèce, des animaux. Et il y a eu ensuite une deuxième opération en 2006 qui a consisté à lâcher cinq individus, quatre femelles et un mâle. Et les Catalans espagnols ont lâché un individu, un mâle, en 2016. Voilà. Donc c'est à partir de ces individus fondateurs, comme on les appelle, que les ours donc se sont bien adaptés, reproduits dans les Pyrénées, et que on en est arrivé maintenant à cette quarantaine d'individus.
Y a-t-il des projets d'en réintroduire d'autres? J'ai cru comprendre qu'il y avait des zones de population où on manquait de femelles, et donc il était question aujourd'hui d'en réintroduire des nouvelles.
Alors, bien sûr, là on parle de la partie occidentale des Pyrénées, c'est-à-dire encore une fois les Pyrénées-Atlantiques, le Béarn, où il ne reste plus que deux individus, qui sont deux mâles. Néré et Canelito. Canelito qui est donc le fils de Canel dont on parlait en début d'émission. Et deux mâles en tout et pour tout, donc là... Il n'est pas difficile d'imaginer que la fin est proche et que nous militons avec nos collègues associatifs et avec de nombreuses personnes pour y lâcher quelques femelles de manière à maintenir un noyau de population dans cette partie des Pyrénées où l'ours a toujours été présent d'une manière continue depuis peut-être donc 250 000 ans en effet.
Avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état de la législation en France? J'ai cru comprendre qu'il y avait deux textes importants, la directive Habitat donc de l'Union européenne, si je ne me trompe pas, et une résolution du Parlement européen en faveur de la protection de l'ours, qui date l'une et l'autre de 1992 et 89.
Voilà. Alors, le statut juridique, il y a la population d'ours. Au niveau déjà de la législation française, l'ours est une espèce protégée. Donc, ça signifie un certain nombre de choses, qu'il est interdit de l'abattre, donc le tuer, de le chasser, de même de le déranger, d'en vendre toutes les parties que cela soit. Et il y a effectivement, puisque l'environnement est un sujet qui a été très largement, confié à l'échelle européenne. Il y a des textes européens qui ont été votés par le Parlement européen depuis un certain temps maintenant et qui imposent à chaque pays membre de l'Union de conserver ou de restaurer les populations d'un certain nombre d'espèces dites prioritaires, et l'ours en fait partie. Donc là, on est bien sur la directive Habitat Faune Flore qui date de mai 1992. Donc clairement, depuis le mois de mai 1992, la France est tenue de conserver et même de restaurer une population viable d'ours dans les Pyrénées.
Ça n'est pas sans poser de problème, on va voir ça après une première pause musicale. Pour ceux qui seraient surpris de trouver une émission sur l'ours en ce vendredi à l'antenne de Radio Présence et particulièrement dans Vivante Église, une fois de plus les vendredis on s'essaye à d'autres sujets et peut-être la préservation de l'ours, ça va être la grande question cette première pause musicale, est-elle dans la veine aussi des nombreuses incitations, entre autres du pape François, quant au développement d'une conscience écologique. Point d'interrogation, on vous retrouve tout de suite après et cette première pause musicale qui parle de l'ours.
On m'appelle Canelito, je suis la terreur des pâturages. Je ne laisse que le cartilage lorsque je m'attaque au troupeau. Je suis le roi de la vallée, certains ne peuvent pas l'avaler. Je les mets en flip voilé, ils rêvent de me voir dévaler. On m'appelle Canelito, je suis la terreur des pâturages. Je ne laisse que le cartilage lorsque je m'attaque au troupeau. Je suis le roi de la vallée, certains ne peuvent pas l'avaler. Je les mets en flip voilé, ils rêvent de me voir dévaler. 1er novembre 2004, par un matin pluvieux, ma mère m'apprend des gestes pour quand je serai plus vieux, pour quand je serai grand, quand je ne serai plus un ourson. Je ne c'est pas encore, mais c'est ma dernière leçon. Car des humains inhumains sont de sortie. La partie de chasse est partie. Un coup de fusil retentit. En ce jour de Toussaint, je les sens tous impatients. Même les chiens semblent comme assoiffés de sang. Soudain, je sens que sur le sentier. On va pas finir entier. Tu le savais bien qu'on traînait depuis des jours dans le quartier. Ça y est, tu tires dans notre direction. René Marquez, t'es le champion de l'extermination. Tu viens de caner Canel, la dernière d'une grande lignée. D'une espèce massacrée, et peu de gens semblent s'indigner. Moi, j'ai perdu ma bonne étoile, j'ai perdu ma grande ours et j'ai compris. On ne vit pas dans le monde des bisounours. On m'appelle Canelito, je suis la terreur des pâturages. Je ne laisse que le cartilage lorsque je m'attaque au troupeau. Je suis le roi de la vallée, certains ne peuvent pas l'avaler. Je les mets en flip voilé, ils rêvent de me voir dévaler. On m'appelle Canelito, je suis la terreur des pâturages. Je ne laisse que le cartilage lorsque je m'attaque au troupeau. Je suis le roi de la vallée, certains ne peuvent pas l'avaler. Je les mets en flip voilé, ils rêvent de me voir dévaler. J'avais à peine 10 mois et déjà toute la peine du monde. Me retrouvant seul dans les bois, redoutant de croiser du monde. À l'approche de l'hiver, on ne donnait pas cher de ma peau. Mais faut pas vendre la peau de l'ours avant de tuer Canelito. J'ai eu de la veine, c'est peut-être mon côté slovène. Mais ma moitié pyrénéenne, les gènes, mes gènes leur inspirent la pire des haines. Je représente bien plus que mes congénères. Je représente la résistance au monde que les congénères. Je suis dans leur visée, car je suis pas civilisé. Nombreux sont ceux qui veulent ma peau, à défaut de pouvoir m'apprivoiser. Quand je vais le croiser, mon vis-à-vis me demandera pas mon avis. Ça sentira la fin de vie et j'avoue que je n'ai pas envie de finir au muséum, finir par amuser les hommes. En somme, plus d'hivernation à jamais privé de somme. Je veux pas compter les moutons juste pour vaincre l'insomnie, ni assouvir les fantasmes du gardien de nuit. On m'appelle Canelito, je suis la terreur des pâturages, je ne laisse que le cartilage.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, ours, ami ou ennemi, point d'interrogation, donc avec Alain Rennes, directeur de l'association Pays de l'Ours à Dette, si vous nous prenez en cours de route. Après cette brève présentation de l'homme qui a vu l'ours, même si vous n'êtes pas le seul, loin s'en faut, qui voit des ours en fait aujourd'hui? Les gardes forestiers et de temps en temps un promeneur ou un éleveur, c'est ça?
Oui, bien sûr, un promeneur, un éleveur, un chasseur, des touristes, c'est extrêmement variable. Il y a des gens qui cherchent à voir des ours longtemps, qui en voient parfois ou n'en voient pas. Et puis j'ai pu connaître des personnes qui sont venues quasiment qu'une fois dans les Pyrénées, qui sont tombées sur un ours. Donc c'est extrêmement... Je fais souvent la comparaison avec le loto, de dire il y a beaucoup de gens qui essayent, il y en a peu qui y arrivent, et les probabilités sont peut-être du même ordre, et qu'il y a très peu de chances de voir un ours dans les Pyrénées, mais ça arrive et on peut toujours tenter sa chance.
Alors en tout cas, quand vous parlez de l'ours, vous souriez, et c'est semble-t-il pas le cas de tout le monde. Pour cette partie, on s'était dit même à un moment qu'on ferait un débat contradictoire, et puis voyant que le sujet était vraiment très chaud en ce moment, on a finalement décidé de vous donner la parole exclusivement à vous, mais de se faire écho, je me ferai écho des opposants ou des critiques actuelles. On va peut-être commencer immédiatement par un extrait de cette vidéo qui peut aussi faire sourire, mais qui en fait c'est pas du tout si drôle que cela. Ce sont des hommes masqués et armés qui veulent rouvrir la chasse à l'ours en Ariège. Ils ont envoyé à différentes rédactions une vidéo. C'était en novembre dernier, c'est cela, en septembre dernier, disant la chose suivante, on va les entendre. Nous, montagnards d'Ariège, éleveurs, randonneurs, chasseurs, élus, citoyens, disant à l'État, ça suffit. Bref, la colère gronde. Extrait et commentaire.
L'image rappelle les heures clandestines pour l'indépendance de la Corse, mais celle-ci aurait été tournée en Ariège. Ici, le territoire à défendre est celui des éleveurs, les ennemis, l'État et les ours.
L'État est resté sourd face aux demandes de nos élus, de nos organisations citoyennes ou professionnelles. Alors, nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours en Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l'État. L'Ariège, terre de liberté, est notre passé et sera notre avenir.
Vraie revendication, provocation ou simple gag, difficile de porter un jugement définitif sur ce document non signé. En tout cas, la préfète a décidé de le transmettre à la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte.
Voilà, donc c'était un extrait d'un reportage de France 3 Région. Donc je vais détailler un petit peu ce que disait. Il faut donc évidemment on voit pas l'image. Hein, donc c'est des hommes cagoulés en armes la nuit. Et donc ça fait tout de suite référence à c'est ce que je disais en fait au FLNC Corse. Ils ajoutent aussi la chose suivante: par l'introduction d'ours slovènes puis la création d'une pouponnière leur permettant de se multiplier, l'État français met en place une gestion du territoire où peu à peu il limite aux hommes et aux femmes de la montagne l'accès, la liberté d'être, de faire, de travailler, indique-t-il. Donc suite à cela, la préfète donc de l'Ariège, Marie Lajus, a eu le commentaire suivant. Il a invité donc les professionnels institutionnels et politiques à marquer leur désaccord avec ceux qui franchissent la ligne de l'illégalité. Et donc une enquête a été ouverte auprès du procureur de la République. Quel a été votre sentiment quand vous avez vu cette vidéo? Vous doutiez que c'était à ce niveau de tension?
Oui, oui. Hélas, oui. Puisque c'est pas la première. Voilà, il y a déjà eu non seulement des propos, mais parfois des actes. Des actes durs, des actes violents même. Ce qui est pas sans poser de questions, bien sûr. Hein, quand on est dans une démocratie comme la France, où on peut quand même discuter, où on peut quand même concerter, c'est quand même étonnant et c'est quand même problématique d'en arriver à des attitudes. D'attitudes comme celle-là. Si certains ont été tentés effectivement de sourire, voire de rire, parce que au tout départ,
ça peut être une rédaction, première réaction. Oui.
Penser effectivement même à un gag. Nous, on a très vite compris que c'était pas du tout un gag, hein, que ça avait une fonction très claire. C'était d'exprimer des difficultés, bien sûr, mais aussi d'exprimer un désaccord et de chercher à faire pression et à faire passer un message via les médias aux responsables politiques à un moment où, avec un nouveau gouvernement, la question de l'ours est susceptible de se reposer, d'autant plus que le ministre en charge de l'écologie de ce gouvernement est Nicolas Hulot, dont chacun connaît les positions par rapport à l'environnement et la biodiversité, et singulièrement la question de l'ours. Il a jamais caché ses positions, donc je pense qu'il y a eu des personnes là qui ont voulu faire monter un peu la tension, on va dire, de manière à dissuader le gouvernement de prendre quelque initiative que ce soit en matière de restauration de la population.
Alors, en cause, donc, les multiples attaques, disent-ils, des ours et les dommages causés à un certain nombre d'éleveurs. J'ai noté les chiffres suivants, je vais vous laisser les commenter. Ça serait, alors pour ceux qui voient le verre à moitié vide, 1% en fait des pertes des troupeaux qui s'élèveraient à 10 ou 20 000 bêtes pour les Pyrénées, sur un total de population que je vous laisserai préciser. Mmh. Ça fait à peu près 200 têtes par an. Et puis, il y a eu un événement qui a peut-être contribué à mettre un petit peu le feu aux poudres. C'était donc dans la nuit du 16 et 17 juillet dernier, c'est ça ?
C'est ça.
Où 209 brebis, cette fois, sont mortes. Alors, c'est pas 209 brebis qui ont été tuées par un ours. Peut-être quelques précisions autour de ces chiffres, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ?
Alors, effectivement, quelques éléments de cadrage. Il y a dans les Pyrénées françaises à environ 600 000 brebis pendant l'été. Les pertes habituelles, je dis pas naturelles, parfois on dit naturelles, mais non, rien de naturel, mais reconnues par les éleveurs sont de l'ordre de 3 à 5% des troupeaux, ce qui représente quelque chose de l'ordre de 18 à 25 000 brebis qui meurent chaque été, principalement de chutes, parfois de maladies, ou de parasitisme, ou de la foudre, ou de la neige, et donc des conséquences de la chute, parfois aussi de prédation de certaines espèces, l'ours peut en faire partie, mais des chiens divagants également, des vols aussi, on en parle peu, mais il y a, en discutant vraiment avec les éleveurs, on se rend compte qu'il y a également beaucoup de vols de brebis. Voilà, bref, il y a effectivement 15 à 20, 25 000 brebis qui disparaissent chaque été dans les Pyrénées françaises, et l'ours est responsable de chaque année environ 150 à 200. Pour l'année 2017, les chiffres sont supérieurs, puisque rien que pour l'Ariège, a priori, du fait de ce dérochement que vous avez évoqué,
on serait déjà
à peu près de 400.
400 têtes.
Voilà, on serait à peu près 400, effectivement. Alors, il est indéniable que cet événement du mois de juillet...
Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez préciser comment 200 brebis peuvent mourir d'un coup?
Eh bien, tout simplement que ces brebis ont chuté, le troupeau en fait est parti, et le troupeau a chuté d'une barre rocheuse, et voilà, dans ces circonstances là qui sont toujours redoutées évidemment par les éleveurs, le nombre de victimes peut être très important. La question qui s'est posée assez rapidement, c'est de savoir est-ce que l'ours est responsable de ce dérochement ou pas. Il est possible malheureusement que ça soit le cas. Ça peut être d'autres causes aussi, des troupeaux de brebis en pleine nuit sont des animaux qui sont à la fois vulnérables et qui sont à la fois très sujets, donc du moins à la peur en fonction des événements. Ça peut être d'autres espèces qui ont pu aussi à ce moment-là leur faire peur, ou les conditions climatiques, parfois un orage, ça peut arriver aussi. En l'occurrence, la question c'était de savoir est-ce que l'ours est responsable. Alors l'enjeu pour les éleveurs, il n'est pas petit, c'est que...
Je me permettrais justement de faire écho peut-être à ce que m'a partagé François Toulis. Donc François Toulis, c'est celui auquel on avait pensé pour vous apporter la contradiction, donc qui est président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Il me disait, parce que j'ai pris le temps du coup de l'appeler, que ça peut paraître peu, justement 1% des pertes, mais pour des éleveurs, comment dire, on n'est pas éleveur pour voir ses brebis tuées, particulièrement, ça peut être des brebis importantes, c'est-à-dire celles qu'on a sélectionnées, qu'on veut garder, etc. Est-ce que vous comprenez la difficulté que ça représente pour les éleveurs, la souffrance que c'est pour ces professionnels?
Mais bien sûr, j'étais justement en train de dire, quand vous avez évoqué les propos de François Toulis, que je connais, que pour les éleveurs, l'enjeu n'était pas petit, que c'était leur troupeau, que c'est leur outil de travail, et que c'est évidemment un énorme problème quand des éleveurs perdent d'un coup 200 brebis, c'est évidemment une catastrophe, et on peut comprendre, bien entendu, à ce moment-là, le désarroi et même la colère. Alors par rapport à ça, comment nous approchons cela par rapport à l'ours? On n'a jamais cherché à minimiser. C'est-à-dire qu'on a toujours dit clairement, l'ours, oui, c'est clair, l'ours peut être une contrainte pour les éleveurs, un problème pour les éleveurs. Mais il faut d'un autre côté voir plusieurs autres aspects. C'est que grâce à la présence de l'ours, depuis une vingtaine d'années maintenant, on a pu mobiliser des moyens qui sont venus conforter l'activité pastorale dans les Pyrénées, qui ont permis d'améliorer les conditions de vie, de travail des bergers, lesquels peuvent mettre en œuvre des mesures de protection des troupeaux, lesquelles mesures sont efficaces, certes, contre les ours, et en l'occurrence c'est le prétexte à leur mise en œuvre, et c'est surtout le moyen d'obtenir les financements pour le faire, mais aussi contre toutes les autres causes de mortalité. C'est-à-dire qu'on arrive à cette situation étonnante et vraiment problématique, que selon effectivement les pratiques de protection des troupeaux que les éleveurs...
Ça finit par rendre service aux éleveurs.
Pour certains éleveurs, oui. clairement. C'est-à-dire que moi, je connais, ils les connaissent également, même si parfois ils préféraient qu'ils ne s'expriment pas. Je connais clairement des éleveurs qui disent, grâce à la présence de l'ours, j'ai pu. Alors attention, l'ours, c'est pas forcément venu leur ami pour autant, mais grâce à la présence de l'ours, j'ai pu mobiliser des moyens. Ces moyens, obtenir des moyens de l'État. Ces moyens ont permis d'embaucher des bergers, de rénover les cabanes, de regrouper les troupeaux tous les soirs en finançant les parcs de protection, d'utiliser, puisqu'ils sont financés également, des chiens de protection, qui sont dissuasifs, les fameux patous des Pyrénées, qui sont tout à fait dissuasifs contre les attaques d'ours. Et un certain nombre, effectivement, d'éleveurs nous disent qu'ils ont moins de pertes maintenant avec l'ours et ses moyens de protection qui sont efficaces contre toutes les pertes qu'ils en avaient avant le retour de l'ours. Donc par rapport à ça, ce qui nous intéresse...
redétailler ces moyens de protection, peut-être les principaux, donc c'est...
Bien sûr, donc la base, c'est effectivement la présence d'un berger l'été en montagne. Autrefois, dans les Pyrénées, le berger était un membre de la famille, souvent un jeune ou un ancien, c'est-à-dire quelqu'un, les gens qui étaient les moins productifs, qui pouvaient pas faire les foins sur l'exploitation, et qui partaient garder les brebis, le troupeau en montagne. Maintenant, c'est plus possible, les familles ne fonctionnent plus de la même manière, il y a eu évidemment des changements sociologiques importants au niveau des exploitations agricoles, donc... maintenant, grâce justement au retour de l'ours, l'État met des moyens qui permettent d'embaucher des bergers. C'est-à-dire que les bergers maintenant sont des professionnels formés et salariés pour s'occuper des troupeaux en montagne.
Donc c'est aussi des plus petits troupeaux. Est-ce que ce sont des plus petits troupeaux avec plus de bergers aussi ou...
Alors ça, c'est le choix, je dirais, de fonctionnement des éleveurs. Hein. Il y a des estives qui sont plus grandes, des estives qui sont plus petites, et donc ils adaptent la taille des troupeaux. Si l'estive est importante, si le troupeau est important, il est parfaitement possible d'y mettre, par exemple, deux bergers. Ça suppose d'avoir des cabanes en bon état. Rappelons-nous, pour ceux qui fréquentent la montagne, l'état des cabanes dans les Pyrénées, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, c'était vraiment des conditions tout à fait vétustes. Grâce à ces financements, les cabanes sont quasiment toutes maintenant restaurées. Elles sont en bon état, elles permettent d'accueillir, je dirais, dignement, si ce n'est confortablement, des bergers qui sont dans des conditions de vie et de travail qui sont difficiles en montagne. Et donc cette base de présence humaine auprès des troupeaux permet de mettre en œuvre les moyens de gestion et de protection des troupeaux. Alors les bases de cette protection, de cette bonne gestion, c'est effectivement le berger qui est en permanence avec son troupeau, en tout cas la journée, qui conduit le troupeau pendant la journée, ce qui permet de gérer la ressource fourragère de l'estive, de ne pas aller toujours au même endroit, parce que les brebis, si elles sont livrées elles-mêmes, elles ont tendance à se concentrer à certains endroits et à en délaisser d'autres qui vont s'enfricher. Rassembler ces troupeaux tous les soir. Et c'est là que les chiens de protection prennent le relais, puisque l'ours intervient principalement pendant la nuit. Et l'idéal, c'est les chiens de protection qui restent avec le troupeau en permanence, peuvent effectivement détecter et éloigner l'ours s'il a la tentation de s'approcher du troupeau.
Alors François Toulis me disait sur ce point qu'en fait, il y a des lieux où il n'est pas possible de rassembler les bêtes le soir parce que c'est des chemins trop escarpés, parce qu'on choisit de mettre les bêtes dans des territoires très importants. Ça, c'était le premier argument, contre-argument. Et le deuxième, c'est de dire que le patou, qui est un chien, ce gros chien blanc, qui paraît très, très sympathique comme ça, mais s'il est capable de défendre des ours, c'est aussi que c'est un chien qui peut être très agressif, et donc ça peut poser problème à des randonneurs et autres, et il y aurait des risques réels d'accident. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux contradictions?
Alors prenons sur les deux points. S'agissant donc d'estives sur lesquelles il serait impossible de rassembler les troupeaux et de les protéger, je pense qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé tiennent effectivement ce raisonnement-là, parce que ce qu'on observe, c'est que autrefois c'était toujours le cas partout, et que aujourd'hui tous ceux qui le mettent en œuvre effectivement, après parfois une période de mise au point, parce que si c'était simple, ça serait fait depuis longtemps. Tous les éleveurs, les bergers sur toutes les estives qui l'essayent constatent effectivement une meilleure protection des troupeaux, à tel point que la présence de l'ours en devient possible, supportable, tolérable. Entendons-nous bien, nous n'espérons pas, et c'est bien normal, que l'ours devienne l'ami des éleveurs. L'ours est potentiellement un prédateur de leur troupeau, dont ils doivent se protéger. Toute la question à partir de là, c'est est-ce que, et c'est une question, je dirais, d'approche et d'éthique de chacun, est-ce que quand on rencontre un problème comme celui-là, est-ce qu'on met en œuvre les moyens pour permettre la coexistence, si ce n'est la cohabitation entre ces deux espèces qui ont chacune leur place dans les Pyrénées de notre point de vue, ou alors est-ce qu'on cherche à l'exclusive, c'est-à-dire de dire c'est l'un ou c'est l'autre, et d'aller dans une attitude de confrontation, dans l'attitude d'opposition. La nôtre position a toujours été et continue d'être de favoriser effectivement cette cohabitation, notamment via ces moyens de protection.
Quid du patou ? Est-ce que le patou peut être dangereux
Pour ce qui concerne les chiens de protection, soyons très clairs là-dessus, le chien de protection n'est pas un chien agressif. Un chien de protection agressif est un mauvais chien de protection. Un chien de protection efficace est un chien dissuasif.
Mais on peut marcher dans la montagne, sortir d'un bois et se retrouver près d'un troupeau sans s'y attendre, et puis le patou, hop...
Voilà. Alors, bien sûr que ça peut arriver. Dans ces circonstances-là, il faut bien comprendre, effectivement, le fonctionnement du chien et agir en conséquence et très calmement, et ça se passe très bien. C'est-à-dire que le chien n'est pas là pour agresser qui que ce soit. Il est juste là pour éviter le contact entre des intrus et le troupeau. C'est-à-dire qu'il va s'interposer et il va, au besoin, aboyer. C'est un animal assez impressionnant. Donc, il arrive, effectivement, que des personnes, des randonneurs ou autres, puissent être impressionnés. Il faut contourner la zone. Il faut laisser, effectivement...
Il n'y a jamais eu d'accident pour l'instant.
Il y a extrêmement rarement d'accidents. Et notre position là-dessus, elle est claire. S'il y avait des chiens qui étaient des chiens, donc agressifs, ça arrive dans toutes les races. Hein. Vous savez, vous avez du berger allemand, je ne parle même pas des races comme Pitbull ou autres. Dans toutes les races de chiens, vous avez des animaux qui peuvent être agressifs. Notre position là-dessus est très claire. Ces animaux-là, ces chiens-là, d'abord, ne sont pas efficaces pour la protection et donc ils doivent être écartés. Ceux qui sont efficaces sont ceux qui sont dissuasifs et qui vont juste empêcher, encore une fois, le contact entre l'intrus et le troupeau. Si on contourne la zone et clairement, et là aussi, c'est à l'avantage des éleveurs, puisque concrètement, ça veut dire que le chien va garantir la tranquillité du troupeau. Et nous, on peut bien comprendre ça, et on peut bien effectivement contourner. Et si ça vous arrive de rencontrer un troupeau avec un ou des chiens de protection, y compris sur un sentier de randonnée, eh bien contournez la zone, reprenez le sentier de randonnée un petit peu plus loin, et tout se passera très bien.
Dernière chose, j'ai entendu parler du cantonnement, c'est-à-dire qu'une solution qui serait avancée, c'est qu'il y aurait en fait des territoires qui seraient attribués à l'ours et dans lesquels il n'y aurait plus en fait de pastoralisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution, même si on a un peu du mal à comprendre quelle forme elle peut prendre, parce qu'on ne va pas faire une espèce de grande barrière électrique de 10 000 mètres carrés.
Voilà. Alors, ça me semble poser des questions de nature, d'une nature technique. Effectivement, et pratique. C'est-à-dire que concrètement, personne ne sait comment ça pourrait fonctionner. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, hein, clairement. Dans aucune montagne du monde, on a comme ça un système de cantonnement des animaux sauvages par rapport aux animaux domestiques. Voilà. Donc personne ne sait comment ça peut fonctionner. Et même quand on rentre un petit peu dans le détail, soyons clairs, ceux qui se sont penchés sur la question disent c'est juste impossible.
Combien il faut d'hectares à un ours pour vivre ?
On ne parle pas.
Type.
On ne parle pas là d'un ours, on parle d'une population d'ours. Mmh. Et une population d'ours, pour s'épanouir de manière optimale, on est de l'ordre de 4 à 5 000 km².
Donc, beaucoup,
ah ben c'est quasiment l'équivalent d'un département, de certains départements. Donc, évidemment.
Vous n'êtes pas pour chasser toute la population de l'Ariège.
Mais c'est vous l'aurez compris, une hypothèse à laquelle nous sommes totalement opposés. Hein, bien sûr, il y a de la place pour tout le monde. Il faut organiser effectivement cette cohabitation dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt de chacun. Mais pour nous, il est absolument hors de question de parquer, je veux dire les les animaux sauvages, parce que ça revient à faire un parc animalier. Un parc animalier, il y en a déjà dans les Pyrénées, donc c'est pas la peine d'en ajouter un. Et puis il y a un autre aspect qui est plus un aspect, je veux dire, éthique, qui est un aspect plus limite philosophique. Ça reviendrait quand même à proposer de parquer des animaux sauvages de manière à pouvoir laisser en liberté, si je puis dire, des animaux domestiques. Et ça va à l'encontre de la nature, de l'un comme de l'autre. C'est-à-dire que la nature de l'animal sauvage est bien d'être libre, et la nature de l'animal domestique est d'être sous la protection de l'homme. Donc je crois qu'il faut remettre les choses à leur place, au niveau des bases, je dirais, au niveau des valeurs également, et c'est ça qui nous permettra, évidemment, de gérer ça de la manière possible. Malheureusement, la difficulté dans laquelle nous sommes tous, depuis un certain temps, c'est une difficulté à dialoguer, une difficulté à imaginer, je dirais, des solutions ensemble qui seraient des solutions satisfaisantes pour tout le monde. Quand l'État essaye, et c'est récurrent, d'organiser des réunions de discussion, des réunions de concertation, les responsables de la profession agricole, parfois M. Toulis, et d'autres organisations agricoles, boycottent systématiquement ces réunions de discussion et de concertation depuis 10 ans maintenant. Alors, c'est difficile d'imaginer trouver des solutions communes quand une des parties refuse de dialoguer.
Alors, de fait, on invitera François Toulis en d'autres circonstances à cette antenne, et on donnera la parole à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je le précise, si par hasard certains justement sont mal à l'aise avec cette partie d'émission, bah, qu'ils n'hésitent pas à se manifester auprès de Radio Présence, et ça nous incitera encore davantage à donner la parole à d'autres personnes. On va faire une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve après pour vous nous reparliez de votre passion de l'ours. L'ours qui est, on le sent bien à travers vos propos, quand on s'y intéresse à la question, qui est plus pour les Pyrénées qu'un animal, qui est presque un symbole ou devenu un emblème culturel.
Il marche, il trotte en Pyrénées, le dernier ours de nos vallées, le dernier ours des Pyrénées. Au printemps dernier, quand les hormones l'ont tenaillé, est parti chercher quelques femelles au fond des bois, au fond des vallées, son Val d'Aran il a quitté. Au printemps dernier, il marche, il trotte en Pyrénées, le dernier ours de nos vallées. Il est arrivé à Luchon, par le Portillon, passe à la vallée du Louron, en dévalant de mont, à Tramezaigue en vallée d'or. Il cherchait encore sa belle autour de Cap de Long, jusqu'à Orédon. Il marche, il trotte, en Pyrénées, le dernier ours de nos vallées. Depuis la vallée de Campan, notre bel amant, par Luse, Cotterelle, Avedan, se casse à les dents, fouillant buisson, forêt, coteau, en vallée d'Ossau, puis en vallée d'Aspa et de Sceaux. Il prie du repos, il marche, il trotte, en Pyrénées, le dernier ours de nos vallées. D'arrêtes aux gorges de Cacouetta, il ne trouva pas d'empreintes ou de traces de pas. Ocho Celaya l'abrita pour toute la nuit, par Irisari, Bidaraï et l'Artsamendi. Il est reparti, il marche, il trotte, en Pyrénées, le dernier ours de nos vallées. De la Rune jusqu'à Guétari, il a poursuivi sa recherche qui l'a conduit jusqu'au sable gris. Dans l'océan il a plongé, savait-il nager, sur quelques vagues il a surfé, puis s'en est allé. Il marche, il trotte, en Pyrénées, le dernier ours de nos vallées.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc l'ours ami ou ennemi, c'est le titre donc de l'émission Vivante Église, avec ce matin Alain Rennes, directeur de l'association Pays de l'Ours Adette. Dans cette dernière partie d'émission, je voulais essayer d'élargir un petit peu donc le sujet, comme je le disais avant la pause musicale, pour que vous nous partagiez ce que symbolise l'ours au-delà du simple animal sauvage qu'il est. Vous me disiez en préparant l'émission que ce qu'on pourrait commencer par raconter, c'est une légende qui circule sur la naissance du premier ours, qui en dit long sur les traditions populaires, peut-être anciennes, autour de la figure de l'ours.
Oui, effectivement, l'ours est vraiment un animal singulier hein, dans tout l'hémisphère nord, puisque jusqu'à une période assez récente, on ne connaissait pas au niveau des populations, j'entends, la présence et l'existence des grands singes en Afrique, et donc l'ours était l'animal le plus proche de l'homme. Et le plus proche de l'homme est tellement plus proche de l'homme que n'importe quelle autre espèce, qu'on en était arrivé à imaginer qu'il y avait peut-être un lien de parenté entre l'homme et l'ours. Et on entend parfois, ou on lit parfois, bien sûr, des mythes, des légendes, c'est lors de la culture populaire, des histoires évoquant le fait que l'ours serait tantôt l'ancêtre de l'homme, tantôt l'ours serait un homme déchu. Et voilà. Et il y a toujours donc cette proximité, limite cette parenté entre les deux, et qui faisait dire aux anciens dans les vallées, je me souviens avoir rencontré une personne qui était assez âgée et qui me confirmait avoir entendu ça quand elle était petite, quand elle était jeune, que les anciens disaient aux enfants que si jamais ils rencontraient un ours dans la forêt, il fallait faire deux choses, il fallait lui parler et il fallait être très poli avec. Et le fondement de cette histoire, c'est que l'ours aurait peut-être gardé la capacité de comprendre le langage des hommes, puisqu'il serait peut-être un homme déchu. Et donc, il fallait être extrêmement prudent et ne pas l'offenser.
Ne pas être impoli.
Voilà. Et ça explique aussi, je dirais, tous les surnoms qu'on utilise encore pour parler de l'ours. C'était aussi un stratagème, un moyen de parler de l'ours sans dire l'ours. Parce que si jamais il était à proximité et qu'il entendait, ben, il comprenait pas comme ça qu'on parle de lui. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait l'ancêtre, on disait le vieux, on disait le vagabond, on disait parfois le va-nu-pied. Aussi parce que le va-nu-pied, voilà, l'empreinte de l'ours, notamment l'empreinte de pied, ressemble étrangement à des pieds humains.
Alors, il n'y a pas que ça. Vous me racontiez que les femelles ours, elles peuvent d'une certaine manière, on peut avoir l'impression qu'elles allaitent leurs petits. Est-ce que vous pouvez décrire cette image ?
Oui, c'est-à-dire que l'ours femelle a des mamelles non seulement sur le bas-ventre, comme la plupart des mammifères, mais également sur la poitrine. Et effectivement, on peut voir parfois cette image étonnante. Alors, l'observer en direct, c'est évidemment extrêmement compliqué, mais au moins en voir des photos, par exemple, d'ours femelles assises exactement dans la position d'une femme, avec des oursons sur les genoux en train de les allaiter exactement comme une femme allaiterait ses petits. Et ça a alimenté tout l'imaginaire populaire, effectivement, toujours dans cette proximité entre l'homme et l'ours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cela dans l'ensemble de l'hémisphère nord où l'ours est présent, que ça soit auprès des Indiens d'Amérique, par exemple, où la considération qu'ils ont pour l'ours est effectivement connue et documentée. À l'inverse, je dirais, de l'autre côté, jusqu'en Russie, en Sibérie, et en passant par le Grand Nord, avec l'ours polaire, où là aussi, il y a tout un ensemble d'histoires, de relations entre l'homme et l'ours, et ça va quand même jusqu'à la relation de parenté directe. Il y a un célèbre conte dans les Pyrénées qui s'appelle Jean de l'Ours, et Jean de l'Ours serait le fils d'une femme et d'un ours, et qui aurait pris les qualités, effectivement, des deux, l'intelligence humaine et les qualités physiques de l'ours, et donc c'est ce qui lui aurait donné des capacités littéralement surhumaines.
Pour finir, on aurait pu parler aussi de toute la période des montreurs d'ours en Ariège. Il y a certaines vallées ou certains villages que l'on dit être je pense au village d'Ustou, ou d'Olus, ou d'Hercé, ou d'Oust, que l'on dit être les villages de montreurs d'ours, mais on vous réinvitera. Je voulais, comme on le fait dans ces émissions du vendredi, vous poser quelques questions sur vos motivations. Alors vous êtes salarié de l'association Pays de l'Ours, donc on va pas vous poser des questions qui concerne, comme on dit dans le jargon, votre fort interne. C'est le secret de votre conscience et de votre cœur. Mais déjà, pourquoi est-ce que vous battez comme ça, dans le fond, pour l'ours aujourd'hui ?
Bien, voilà, ce que je trouve effectivement personnellement passionnant, c'est que l'ours est bien plus qu'une espèce animale. C'est-à-dire qu'il s'agit bien plus de protéger une espèce ou de protéger une boule de poils, si je puis dire. C'est cet ensemble, je dirais, ce patrimoine que constitue à la fois une espèce biologique, bien entendu, mais aussi tout cet aspect culturel des relations entre l'homme et l'ours. Et finalement, d'une certaine manière, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce qui se passe aujourd'hui, n'est que la continuité de cette histoire qui a commencé il y a des milliers d'années, quand il a commencé à y avoir simultanément des hommes et des ours, avec des relations toujours complexes entre les deux, mais toujours également riches et toujours ambivalentes. C'est-à-dire que l'ours a toujours eu un côté négatif et un côté difficile, de par exemple les dégâts, mais pas seulement, parce qu'il faut voir qu'autrefois la question était encore plus complète que ça. Autrefois, il y a quelques siècles de ça, quand dans les Pyrénées, on avait un système, une agriculture de type vivrière, avec la production sur place de tout ce qu'on avait besoin pour vivre, l'ours prélevait un petit peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on faisait des céréales pour faire du pain, l'ours mangeait dans les champs de céréales. Si on faisait du verger pour avoir des fruits, l'ours prélevait des fruits. Si on avait quelques bêtes, l'ours, parfois, il faisait aussi quelques dégâts. Et quand on avait des ruches qui faisaient le sucre, l'ours prélevait également, et il continue de le faire là-dedans. Donc la relation, effectivement, elle a toujours été à la fois proche, à la fois complexe, mais aussi toujours cet aspect positif lié à cette proximité et aussi au fait que c'est quand même une espèce aussi biologiquement extraordinaire.
Donc à vous entendre, c'est pour vous donc un combat aussi culturel. On me fait signe que le temps presse. J'avais quand même une dernière question. Avez-vous lu ou entendu parler de l'encyclique Laudato Si du pape François, cette encyclique sur l'écologie? C'est pas le premier chrétien à se mobiliser en faveur de notre planète, bien que l'encyclique soit plus qu'une mobilisation en faveur de la planète. Je cite un ou deux extraits. « Les prévisions catastrophiques ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions laisser trop de décombres, de déserts, de saletés aux prochaines générations, etc. Où la faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l'échec des sommets mondiaux sur l'environnement. » Est-ce que vous êtes sensible à ce discours de l'Église? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Écoutez, ce que j'ai trouvé effectivement très intéressant, je vous cache pas, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'en ai lu effectivement au moins des analyses ou des présentations, en particulier au moment où cette encyclique a été apparue. Je crois qu'elle note effectivement une évolution notable, une évolution importante de l'approche de l'Église et de la prise de conscience effectivement maintenant du risque que fait courir un petit peu cette course qu'on a pu avoir à la maîtrise de la, cette tentative de maîtrise de la nature et de la planète, et on en voit maintenant toutes les limites et tous les risques. Et je trouve que très intéressant effectivement que le pape, qui est évidemment une autorité spirituelle au plus haut niveau, ait souhaité formuler cette évolution, cette prise de conscience. L'histoire entre l'ours et l'Église a aussi été compliquée. Il y a eu aussi une période, notamment pendant le Moyen-Âge, où l'ours faisait l'objet de cultes païens, ce qui n'était pas très bien vu de la part de l'Église. Donc il a pu, à un certain moment, être un petit peu dénigré, on va dire, par l'Église. Et je trouve très intéressant, effectivement, que, comme toute la société, il y a une évolution à ce niveau-là et qu'il y ait maintenant des prises de conscience. J'ai noté aussi dans l'encyclique toute une partie sur les risques de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire de penser que vraiment avant tout doit être organisé par et pour et autour de l'homme, et que ça a montré ses limites, évidemment, cette conception-là, et que maintenant on admet de tout point de vue qu'il y a aussi d'autres entités dans l'environnement, dans la nature, dans les écosystèmes, qui ont le droit d'exister par elles-mêmes et qui n'ont pas nécessairement à se justifier d'exister en regard d'une utilité pour l'homme. Tout ça est effectivement extrêmement intéressant.
Merci beaucoup Alain Rennes d'être venu au micro de Vivante Église pour nous parler de l'ours. On vous réinvitera, j'espère en tout cas, pour parler de cet animal bien mystérieux. Je rappelle, vous êtes directeur de l'association Pays de l'Ours à Dette. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.